Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quand nous reprenons notre lecture du livre Arsène Lupin, L'aiguille creuse de Maurice Leblanc, dans le livre de poche, Botrelet a découvert différentes choses intéressantes. Et c'est alors qu'il reçoit un courrier mystérieux et lourd de sous-entendus. Deuxième avertissement, tais-toi, sinon... Reprenons notre lecture pour savoir si Botrelet va continuer ou arrêter ses recherches. Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout blanc. Ce n'est rien? Ce n'est rien, la chaleur. Botrelet sortit en titubant. La joie, l'imprévu de la découverte l'étourdissait. Il s'en retourna tout tranquillement, coucha le soir au village de Varangeville, passa le lendemain matin 1 heure à la mairie avec l'instituteur et revint au château. Une lettre l'y attendait, au bon soin de Monsieur le comte de Gesvres. Elle contenait ces lignes. Deuxième avertissement. Tais-toi, sinon, point de suspension. Allons, murmura-t-il, il va falloir prendre quelques précautions pour ma sûreté personnelle. Sinon, comme ils disent, il était 9 heures. Il se promena parmi les ruines, puis s'allongea près de l'arcade et ferma les yeux. « Eh bien, jeune homme, êtes-vous content de votre campagne ?» C'était M. Filleul qui arrivait à l'heure fixée. « Enchanté, monsieur le juge d'instruction. » Ce qui veut dire que je suis prêt à tenir ma promesse malgré cette lettre qui ne m'y engage guère. » Il montra la lettre à M. Filleul. « Bah, foi, des histoires !» s'écria celui-ci. « J'espère que cela ne vous empêchera pas de vous dire ce que je sais ?»« Non, monsieur le juge d'instruction, j'ai promis, je tiendrai. » Avant 10 minutes, nous saurons une partie de la vérité. Une partie ? Oui, à mon sens, la cachette de Lupin, cela ne constitue pas tout le problème. Mais pour la suite, nous verrons. Monsieur Botrelet, rien ne m'étonne de votre part, mais comment avez-vous pu découvrir ? Oh, tout naturellement ! Il y a dans la lettre du sieur Arlington à Monsieur Étienne de Vaudrex, ou plutôt à Lupin, la lettre interceptée ? Oui ! Il y a une phrase qui m'a toujours intriguée, c'est celle-ci. « À l'envoi des tableaux, vous joindrez le reste, si vous pouvez réussir ce dont je doute fort. » En effet, je me souviens. Quel était ce reste? Un objet d'art, une curiosité? Le château n'offrait rien de précieux que les rubens et les tapisseries. Des bijoux? Il y en a fort peu et de valeur médiocre. Alors quoi? Et d'autre part, pouvait-on admettre que des gens comme Lupin d'une habileté aussi prodigieuse n'eussent pas réussi à joindre à l'envoi ce reste qu'ils avaient évidemment proposé? Entreprise difficile, c'est probable, exceptionnelle, soit, mais possible, donc certaine, puisque Lupin le voulait. Cependant, il a échoué, rien n'a disparu. Il n'a pas échoué. Quelque chose a disparu. Oui, les rubens, mais les rubens et autre chose. Quelque chose que l'on a remplacé par une chose identique, comme on a fait pour les rubens. Quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, de plus rare et de plus précieux que les rubens. Enfin, quoi ? Vous me faites languir ! Tout en marchant à travers les ruines, les deux hommes s'étaient dirigés vers la petite porte et longeaient la chapelle Dieu. Botrelet s'arrêta. « Vous voulez le savoir, monsieur le juge d'instruction ? Si je le veux ? » Botrelet avait une canne à la main. un bâton solide et noueux. Brusquement, d'un revers de cette canne, il fit sauter en éclats l'une des statuettes qui ornait le portail de la chapelle. « Mais vous êtes fou !» clama Monsieur Filleul, hors de lui, et se précipitant vers les morceaux de la statue. « Vous êtes fou ! Ce vieux saint était admirable !»« Admirable ?» proféra Isidore en exécutant un moulinet qui jeta bas la Vierge Marie. Monsieur Filleul l'empoigna à bras le corps. « Jeune homme, je ne vous laisserai pas commettre... » Un roi mage alors voltigea, puis une crèche avec l'enfant Jésus. « Un mouvement de plus et je tire !» Le comte de Guèvres était survenu et armé son revolver. Botrelet éclata de rire. « Tirez donc là-dessus, monsieur le comte. Tirez là-dessus comme à la foire. Tenez, ce bonhomme qui porte sa tête à pleine main. » Le saint Jean-Baptiste sauta. « Ah !» fit le comte en braquant son revolver. « Une telle profanation ? De pareils chefs-d'œuvre ? Du toc, monsieur le comte !»« Quoi ? Que dites-vous ? » hurla monsieur Filleul, tout en désarmant le comte. « Du toc, du carton-pâte ! Ah ça ! Est-ce possible ? Du soufflet, du vide, du néant !» Le comte se baissa et ramassa un débris de statuette. « Regardez bien, monsieur le comte, du plâtre patiné, moisi, verdi, comme la pierre ancienne, mais du plâtre, des moulages de plâtre. Voilà tout ce qui reste du pur chef-d'œuvre. Voilà ce qu'ils ont fait en quelques jours. Voilà ce que le sieur Charpenet, le copiste des Rubens, a préparé il y a un an. » À son tour, il saisit le bras de monsieur Filleul. « Qu'en pensez-vous, monsieur le juge d'instruction ? Est-ce beau ? Est-ce énorme ? Gigantesque ? La chapelle enlevée ? Toute une chapelle gothique recueillie pierre par pierre ? Tout un peuple de statuettes capturées et remplacées par des bonshommes en stuc ? Un des plus magnifiques spécimens d'une époque d'art incomparable confisqué ? La chapelle Dieu enfin volée ? N'est-ce pas formidable ? Ah, monsieur le juge d'instruction ! Quel génie que cet homme ! Vous vous emballez, monsieur Botrelet ? On ne s'emballe jamais trop, monsieur, quand il s'agit de pareils individus. Tout ce qui dépasse la moyenne vaut qu'on l'admire. Et celui-là plane au-dessus de tout. Il y a dans ce vol une richesse de conception, une force, une puissance, une adresse et une désinvolture qui me donnent le frisson. « Dommage qu'il soit mort, » ricana monsieur Filleul, « sans quoi il eût fini par voler les tours de Notre-Dame. » Isidore haussa les épaules. « Ne riez pas, monsieur, même mort, celui-là vous bouleverse. » « Je ne dis pas, monsieur Botrelet, et j'avoue que ce n'est pas sans une certaine émotion que je m'apprête à le contempler, si toutefois ses camarades n'ont pas fait disparaître son cadavre. » Et en admettant surtout, remarqua le comte de Gesvres, que ce fut bien lui qui blessa ma pauvre nièce. Ce fut bien lui, monsieur le comte, affirma Botrelet. Ce fut bien lui qui tomba dans les ruines sous la balle que tira mademoiselle de Saint-Véran. Ce fut lui qu'elle vit se relever et qui retomba encore et qui se traîna vers la grande arcade pour se relever une dernière fois. Cela par un miracle dont je vous donnerai l'explication tout à l'heure, et parvenir jusqu'à ce refuge de pierre qui devait être son tombeau. Et de sa canne, il frappa le seuil de la chapelle. « Hé, quoi ? » s'écria M. Filleul stupéfait. « Son tombeau ? Vous croyez que cette impénétrable cachette, elle se trouve ici, là, répéta-t-il. Mais nous l'avons fouillée. « Mal ! Il n'y a pas de cachette ici, » protesta monsieur de Gesvres. « Je connais la chapelle. »« Si, monsieur le comte, il y en a une. » »« Allez à la mairie de Varangeville, où l'on a recueilli tous les papiers qui se trouvaient dans l'ancienne paroisse d'Embrumésie, et vous apprendrez par ces papiers datés du XVIIIe siècle qu'il existait sous la chapelle une crypte. Cette crypte remonte sans doute à la chapelle romane, sur l'emplacement de laquelle celle-ci fut construite. Mais comment Lupin aurait-il connu ce détail ? Demanda M. Filleul. D'une façon fort simple, par les travaux qu'il dut exécuter pour enlever la chapelle. Voyons, voyons, Monsieur Botrelet, vous exagérez. Il n'a pas enlevé toute la chapelle. Tenez, aucune de ces pierres d'assises n'a été touchée. Et évidemment, il n'a moulé et il n'a pris que ce qui avait une valeur artistique. Les pierres travaillées, les sculptures, les statuettes, tout le trésor des petites colonnes et des ogives ciselées. Il ne s'est pas occupé de la base même de l'édifice. Les fondations restent. Par conséquent, Monsieur Botrelet, Lupin n'a pu pénétrer jusqu'à la crypte. À ce moment, Monsieur de Grève, qui avait appelé l'un de ses domestiques, revenait avec la clé de la chapelle. Il ouvrit la porte. Les trois hommes entrèrent. Après un instant d'examen, Botrelet reprit. Les dalles du sol, comme de raison, ont été respectées. Mais il est facile de se rendre compte que le maître-autel n'est plus qu'un moulage. Or, généralement, l'escalier qui descend aux cryptes s'ouvre devant le maître-autel et passe sous lui. Vous en concluez ? J'en conclus que c'est en travaillant là que Lupin a trouvé la crypte. À l'aide d'une pioche que le comte envoya chercher, Botrelet attaqua l'autel. Les morceaux de plâtre sautaient de droite et de gauche. « Fichtre !» murmura M. Filleul. « J'ai hâte de savoir !»« Moi aussi !» dit Botrelet, dont le visage était pâle d'angoisse. Il précipita ses coups. Et soudain, sa pioche, qui jusqu'ici n'avait point rencontré de résistance, se heurta à une matière plus dure et rebondit. On entendit comme un bruit d'éboulement, et ce qui restait de l'autel s'abîma dans le vide à la suite du bloc de pierre que la pioche avait frappé. Botrelet se pencha. Il fit flamber une allumette et la promena sur le vide. « L'escalier commence plus en avant que je ne pensais, sous les dalles de l'entrée presque. J'aperçois les premières marches. Est-ce profond ? 3 ou 4 mètres. Les marches sont très hautes et il en manque. » « Il n'est pas vraisemblable, dit M. Filleul, que pendant la courte absence des trois gendarmes, alors qu'on enlevait Mademoiselle de Saint-Véran, il n'est pas vraisemblable que les complices aient eu le temps d'extraire le cadavre de cette cave. Et puis, pourquoi l'eussent-ils fait d'ailleurs ? Non, pour moi, il est là. » Un domestique leur apporta une échelle que Botrelet introduit dans l'excavation et qu'il planta, en tâtonnant, parmi les décombres tombés. Puis, il en maintint vigoureusement les deux montants. « Voulez-vous descendre, monsieur Filleul ?» Le juge d'instruction, muni d'une bougie, s'aventura. Le comte de Guèvre le suivit. À son tour, Botrelet posa le pied sur le premier échelon. Il y en avait 18 qu'il compta machinalement, tandis que ses yeux examinaient la crypte où la lueur de la bougie luttait contre les lourdes ténèbres. Mais, en bas, une odeur violente, immonde, le heurta, une de ces odeurs de pourriture dont le souvenir par la suite vous obsède. Oh, cette odeur ! Il en eut le cœur qui chavira. Et tout à coup, une main tremblante lui agrippa l'épaule. « Eh bien quoi ? Qu'y a-t-il ? « Botrelet !» balbutia M. Filleul. Il ne pouvait parler, étreint par l'épouvante. « Voyons, monsieur le juge d'instruction, remettez-vous !»« Botrelet, il est là ! Hein ?»« Oui ? » ?»« Il y avait quelque chose sous la grosse pierre qui s'est détachée de l'autel. J'ai poussé la pierre et j'ai touché. Oh, je n'oublierai jamais !»« Où est-il ? » ?»« De ce côté !» Sentez-vous cette odeur ? Et puis, tenez, regardez ! Il avait saisi la bougie et la projetait vers une forme étendue sur le sol. Oh ! S'exclama Botrelet avec horreur. Les trois hommes se courbèrent vivement. À moitié nu, le cadavre s'allongeait, maigre, effrayant. La chair verdâtre, au ton de cire molle, apparaissait par endroits entre les vêtements déchiquetés. Mais le plus affreux, ce qui avait arraché au jeune homme un cri de terreur, c'était la tête que venait d'écraser le bloc de pierre, la tête informe, masse hideuse, où plus rien ne pouvait se distinguer. Et quand leurs yeux se furent accoutumés à l'obscurité, ils virent que toute cette chair grouillait abominablement. En quatre enjambées, Botrelet remonta l'échelle et s'enfuit au grand jour à l'air libre. Monsieur Filleul le retrouva de nouveau couché à plat ventre, les mains collées au visage. Il lui dit « Tous mes compliments, Botrelet. Outre la découverte de la cachette, il est deux points où j'ai pu contrôler l'exactitude de vos assertions. Tout d'abord, l'homme sur qui Mademoiselle de Saint-Véran a tiré était bien Arsène Lupin, comme vous l'avez dit, dès le début. De même, c'était bien sous le nom d'Étienne de Vaudrex qu'il vivait à Paris. Le linge est marqué aux initiales EV. Il me semble, n'est-ce pas, que la preuve suffit. » Isidore ne bougeait plus. « Monsieur le comte est parti faire atteler. On va chercher le docteur Jouet qui fera les constatations d'usage. Pour moi, la mort date de 8 jours au moins. L'état de décomposition du cadavre, mais vous n'avez pas l'air d'écouter. » Si. « Si. Ce que je dis est appuyé sur des raisons péremptoires. Ainsi, par exemple, Monsieur Filleul continua sa démonstration sans obtenir d'ailleurs des marques plus manifestes d'attention. Mais le retour de Monsieur de Guèvre interrompit son monologue. Le comte revenait avec 2 lettres. L'une lui annonçait l'arrivée d'Herlock Sholmès pour le lendemain. « À merveille !» s'écria Monsieur Filleul, tout allègre. « L'inspecteur Ganimard arrive également. Ce sera délicieux. » « Cette autre lettre est pour vous, monsieur le juge d'instruction, » dit le comte. « De mieux en mieux, » reprit monsieur Filleul après avoir lu. « Ces messieurs, décidément, n'auront pas grand-chose à faire. Botrelet, on me prévient de Dieppe que des pêcheurs de bouquets ont trouvé ce matin, sur les rochers, le cadavre d'une jeune femme. » Botrelet sursauta. Ah, que dites-vous? Le cadavre? D'une jeune femme, un cadavre affreusement mutilé, précise-t-on, et dont il ne serait pas possible d'établir l'identité. S'il ne restait au bras droit une petite gourmette d'or très fine qui s'est incrustée dans la peau tuméfiée. Or, Mademoiselle de Saint-Véran portait au bras droit une gourmette d'or. Il s'agit donc évidemment de votre malheureuse nièce, monsieur le comte, que la mère aura entraînée jusque-là. Qu'en pensez-vous, Botrelet? Rien, ou plutôt si, tout s'enchaîne. Mais vous voyez, il ne manque plus rien à mon argumentation. Tous les faits, un à un, même les plus contradictoires, même les plus déconcertants, viennent à l'appui de l'hypothèse que j'ai imaginée dès le premier moment. « Je ne comprends pas bien. » « Vous ne tarderez pas à comprendre. Rappelez-vous que je vous ai promis la vérité entière. Mais il me semble un peu de patience. Jusqu'ici, vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi. Il fait beau. Promenez-vous, déjeunez au château, fumez votre pipe. Moi, je serai de retour vers 4 ou 5 heures. Quant à mon lycée, ma foi, tant pis. Je prendrai le train de minuit. » arrivé au commun, derrière le château, Beautrelet sauta à bicyclette et s'éloigna. À Dieppe, il s'arrêtait au bureau du journal La Vigie où il se fit montrer les numéros de la dernière quinzaine. Puis, il partit pour le bourg d'Envermeux, situé à 10 kilomètres. À Envermeux, il s'entretint avec le maire, avec le curé, avec le garde champêtre. 3 heures sonnèrent à l'église du bourg. Son enquête était finie. Il revint en chantant d'allégresse. Ses jambes pesaient tour à tour d'un rythme égal et fort sur les deux pédales. Sa poitrine s'ouvrait largement à l'air vif qui soufflait de la mer. Et parfois, il s'oubliait à jeter au ciel des clameurs de triomphe en songeant au but qu'il poursuivrait et à ses efforts heureux. Embrumésie apparut. Il se laissa aller à toute vitesse sur la pente qui précède le château. Les arbres qui bordent le chemin, en quadruple rangée séculaire, semblaient accourir à sa rencontre et s'évanouir aussitôt derrière lui. Et, tout à coup, il poussa un cri. Dans une vision soudaine, il avait vu une corde se tendre d'un arbre à l'autre en travers de la route. La machine heurtée s'arrêta net. Il fut projeté en avant avec une violence inouïe. Et eut l'impression qu'un hasard seul, un miraculeux hasard, lui faisait éviter un tas de cailloux où, logiquement, sa tête aurait dû se briser. Il resta là, quelques secondes, étourdi, puis, tout contusionné, les genoux écorchés, il examina les lieux. Un petit bois s'étendait à droite, par où, sans aucun doute, l'agresseur s'était enfui. Beautrelet détacha la corde. À l'arbre de gauche autour duquel elle était attachée, un petit papier était fixé par une ficelle. Il le déplia et lut. 3e et dernier avertissement. Il rentra au château, posa quelques questions aux domestiques et rejoignit le juge d'instruction dans une pièce du rez-de-chaussée tout au bout de l'aile droite où M. Filleul avait l'habitude de se tenir au cours de ses opérations. M. Filleul écrivait, son greffier assis en face de lui. Sur un signe, le greffier sortit et le juge s'écria « Mais qu'avez-vous donc, M. Beautrelet ? Vos mains sont en sang !»« Oh, ce n'est rien, dit le jeune homme. Une simple chute, provoquée par cette corde, qu'on a tendu devant ma bicyclette. Je vous prierai seulement de remarquer que la dite corde provient du château. Il n'y a pas plus de 20 minutes qu'elle servait à sécher du linge auprès de la buanderie. Est-ce possible ? Monsieur, c'est ici même que je suis surveillé, par quelqu'un qui se trouve au cœur de la place, qui me voit, qui m'entend et qui, minute par minute, assiste à mes actes et connaît mes intentions. « Vous croyez ? J'en suis sûr. C'est à vous de le découvrir. Et vous n'y aurez pas de peine. Mais pour moi, je veux finir et vous donner les explications promises. J'ai marché plus vite que nos adversaires ne s'y attendaient et je suis persuadé que, de leur côté, ils vont agir avec vigueur. Le cercle se resserre autour de moi, le péril approche. J'en ai le pressentiment. Voyons, voyons, Beautrelet. Bah, on verra bien. Pour l'instant, dépêchons-nous. Et d'abord, une question sur un point que je veux écarter tout de suite. Vous n'avez parlé à personne de ce document que le brigadier Quevillon a ramassé et qu'il vous a remis en ma présence. Ma foi, non, à personne. Mais est-ce que vous y attachez une valeur quelconque ? Une grande valeur ! C'est une idée que j'ai, une idée du reste, je l'avoue, qui ne repose sur aucune preuve, car jusqu'ici, je n'ai guère réussi à déchiffrer ce document. Aussi, je vous en parle pour n'y plus revenir. Beautrelet appuya sa main sur celle de M. Filleul et à voix basse. « Taisez-vous ! On nous écoute dehors ! » Le sable craqua. Beautrelet courut vers la fenêtre et se pencha. Il n'y avait plus personne, mais la plate-bande est foulée. On relèvera facilement les empreintes. Il ferma la fenêtre et vint se rasseoir. Vous voyez, monsieur le juge d'instruction, l'ennemi ne prend même plus de précautions. Il n'en a plus le temps, lui aussi sent que l'heure presse. Hâtons-nous donc et parlons, puisqu'ils ne veulent pas que je parle. Il posa sur la table le document et le maintint déplié. Avant tout, une remarque. Il n'y a sur ce papier, en dehors des points, que des chiffres. Et dans les trois premières lignes et la cinquième, les seules dont nous ayons à nous occuper, car la quatrième semble d'une nature tout à fait différente. Il n'y a pas un de ces chiffres qui soit plus élevé que le chiffre 5. Nous avons donc bien des chances pour que chacun de ces chiffres représente une des cinq voyelles et dans l'ordre alphabétique. Inscrivons le résultat. Il inscrivit sur une feuille à part e.a.a.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e.e. .e, .eu, .e. Puis, il reprit. Comme vous voyez, cela ne me donne pas grand-chose. La clé est à la fois très facile, puisqu'on s'est contenté de remplacer les voyelles par des chiffres et les consonnes par des points. Et très difficile, sinon impossible, puisqu'on ne s'est pas donné plus de mal pour compliquer le problème. Il est de fait qu'il est suffisamment obscur. Essayons de l'éclaircir. La seconde ligne est divisée en deux parties, et la deuxième, première partie, se présente de telle façon qu'il est tout à fait probable qu'elle forme un mot. Si nous tâchons maintenant de remplacer les points intermédiaires par des consonnes, nous concluons, après tâtonnement, que les seules consonnes qui peuvent logiquement servir d'appui aux voyelles et ne peuvent logiquement produire qu'un mot, un seul mot, demoiselle. Il s'agirait alors de mademoiselle de Gèvres et de mademoiselle de Saint-Véran, en toute certitude. Et vous ne voyez rien d'autre? Si. Je note encore une solution de continuité au milieu de la dernière ligne. Et si j'effectue le même travail sur le début de la ligne, je vois aussitôt qu'entre les deux diphtongues AI et UI, la seule consonne qui puisse remplacer le point est un G. Et que, quand j'ai formé le début de ce mot aigui, il est naturel et indispensable que j'arrive avec les deux points suivants et le E final au mot aiguille. En effet, le mot aiguille s'impose. Enfin, pour le dernier mot, j'ai trois voyelles et trois consonnes. Je tâtonne encore. J'essaie toutes les lettres les unes après les autres et en partant de ce principe que les deux premières lettres sont des consonnes, je constate que quatre mots peuvent s'adapter. Les mots « fleuve », « preuve », « pleure » et « creuse ». J'élimine les mots « fleuve », « preuve » et « pleure » comme n'ayant aucune relation possible avec une aiguille. Et je garde le mot « creuse ». Ce qui fait aiguille creuse. J'admets que votre solution soit juste, mais en quoi nous avance-t-elle? En rien, fit Botrelet d'un ton pensif. En rien, pour le moment. Plus tard, nous verrons. J'ai idée, moi, que bien des choses sont incluses dans l'accouplement énigmatique de ces deux mots. Aiguille creuse. Ce qui m'occupe, c'est plutôt la matière du document, le papier dont on s'est servi. Fabrique-t-on encore cette sorte de parchemin un peu granité? Et puis, cette couleur d'ivoire et ses plis, l'usure de ses quatre pliés, enfin, tenez, ces marques de cire rouge par derrière. À ce moment, Botrelet fut interrompu. C'était le greffier Brédoux qui ouvrait la porte et qui annonçait l'arrivée subite du procureur général. Monsieur Filleul se leva. « Monsieur le procureur général est en bas ?»« Non, monsieur le juge d'instruction. Monsieur le procureur général n'a pas quitté sa voiture. Il ne fait que passer et il vous prie de bien vouloir le rejoindre devant la grille. Il n'a qu'un mot à vous dire. » Bizarre, murmura monsieur Filleul. Enfin, nous allons voir. Botrelet, excusez-moi. Je vais et je reviens. Il s'en alla. On entendit ses pas qui s'éloignaient. Alors le greffier ferma la porte, tourna la clé et la mit dans sa poche. Eh bien quoi ? S'exclama Botrelet, tout surpris. Mais que faites-vous ? Pourquoi nous enfermer ? Ne serons-nous pas mieux pour causer ? Riposta Brédoux. Botrelet bondit vers une autre porte qui donnait dans la pièce voisine. Il avait compris. Le complice, c'était Brédoux, le greffier même du juge d'instruction. Brédoux ricana. Ne vous écorchez pas les doigts, mon jeune ami. J'ai aussi la clé de cette porte. Restez à la fenêtre, s'écria Botrelet. Trop tard, dit Brédoux, qui se campa devant la croisée, le revolver au poing. Toute retraite était coupée. Il n'y avait plus rien à faire, plus rien qu'à se défendre contre l'ennemi qui se démasquait avec une audace brutale. Isidore, qui étreignait un sentiment d'angoisse inconnue, se croisa les bras. « Bien, marmotta le greffier. » Et maintenant, soyons brefs. Il tira sa montre. Ce brave monsieur Filleul va cheminer jusqu'à la grille. À la grille, personne, bien entendu, pas plus de procureur que sur ma main. Alors, il s'en reviendra. Cela nous donne environ 4 minutes. Il m'en faut une pour m'échapper par cette fenêtre, filer par la petite porte des ruines et sauter sur la motocyclette qui m'attend. Reste donc 3 minutes, cela suffit. C'était un drôle d'être contrefait qui tenait en équilibre sur des jambes très longues et très frêles, un buste énorme, rond comme un corps d'araignée et muni de bras immenses. Un visage osseux, un petit front bas indiquait l'obstination un peu bornée du personnage. Botrelet chancela, les jambes molles. Il dut s'asseoir. « Parlez ! Que voulez-vous ? » ?»« Le papier. Voici 3 jours que je le cherche. »« Je ne l'ai pas. »« Tu mens. Quand je suis entré, je t'ai vu le remettre dans ton portefeuille. »« Après ? » ?»« Après ? » ?»« Tu t'engageras à rester bien sage. »« Tu nous embêtes. Laisse-nous tranquilles. » et occupe-toi de tes affaires. Nous sommes à bout de patience. » Il s'était avancé, le revolver toujours braqué sur le jeune homme, et il parlait sourdement en martelant ses syllabes, avec un accent d'une incroyable énergie. L'œil était dur, le sourire cruel. Botrelet frissonna. C'était la première fois qu'il éprouvait la sensation du danger. Et quel danger ! Il se sentait en face d'un ennemi implacable, d'une force aveugle et irrésistible. « Et après ? » dit-il d'une voix étranglée. « Après, rien. Tu seras libre. » Un silence. Brédoux reprit. « Plus qu'une minute, il faut te décider. Allons, mon bonhomme, pas de bêtises. Nous sommes les plus forts, toujours et partout. » « Vite, le papier !» Isidore ne bronchait pas, livide, terrifié, maître de lui pourtant et le cerveau lucide dans la débâcle de ses nerfs. À 20 centimètres de ses yeux, le petit trou noir du revolver s'ouvrait. Le doigt replié pesait visiblement sur la détente. Il suffisait d'un effort encore. « Le papier !» répéta Bredou, « sinon... »« Le voici !» dit Botrelet. Il tira de sa poche son portefeuille et le tendit au greffier qui s'en empara. « Parfait ! Nous sommes raisonnables ! Décidément, il y a quelque chose à faire avec toi. Un peu froussard, mais du bon sens. J'en parlerai aux camarades. Et maintenant, je file. Adieu !» Il rentra son revolver et tourna l'espagnolette de la fenêtre. Du bruit résonné dans le couloir. « Adieu » fit-il de nouveau. « Il n'est que temps !» Mais une idée l'arrêta. D'un geste, il vérifia le portefeuille. « Tonnerre » grinça-t-il. « Le papier n'y est pas. Tu m'as roulé !» Il sauta dans la pièce. Deux coups de feu retentirent. Isidore, à son tour, avait saisi son pistolet et il tirait. « Raté, mon bonhomme !» hurla Bredou. « Ta main tremble, tu as peur ?» Ils s'empoignèrent à bras-le-corps et roulèrent sur le parquet. À la porte, on frappait à coups redoublés. Isidore faiblit tout de suite, dominé par son adversaire. C'était la fin. Une main se leva au-dessus de lui, armée d'un couteau, et s'abattit. Une violente douleur lui brûla l'épaule. Il lâcha prise. Il eut l'impression qu'on fouillait dans la poche intérieure de son veston et qu'on saisissait le document. Puis, après le voile baissé de ses paupières, il devina l'homme qui franchissait le rebord de la fenêtre. Les mêmes journaux qui, le lendemain matin, relataient les derniers épisodes survenus au château d'Ambrésie, le trucage de la chapelle, la découverte du cadavre d'Arsène Lupin et du cadavre de Raymond, et enfin le meurtre de Botrelet par Bredou, greffier du juge d'instruction, les mêmes journaux annonçaient les deux nouvelles suivantes. La disparition de Ganimard et l'enlèvement en plein jour au cœur de Londres, alors qu'il allait prendre le train pour Douvres, l'enlèvement d'Herlock Sholmès. Ainsi donc, la bande de Lupin, un instant désorganisée par l'extraordinaire ingéniosité d'un gamin de 17 ans, reprenait l'offensive et du premier coup, partout et sur tous les points, demeurait victorieuse. Les deux grands adversaires de Lupin, Sholmès et Ganimard, supprimés. Botrelet, hors de combat. Plus personne qui fût capable de lutter contre de tels ennemis. Botrelet continue sa recherche. 3 heures après, il a ce qu'il cherchait. Malheureusement, à la suite de son retour, une corde barrait la route. Et tout d'un coup, il est projeté en avant. Un peu étourdi, avec quelques contusions, le petit bois à droite comme à gauche de la route a permis à l'agresseur de s'enfuir. Botrelet se relève, détache la corde et rentre au château. 3e et dernier avertissement, c'est ce qui était écrit. Monsieur Filleul en est informé et, dans son état, demande au greffier de sortir pour être plus libre de parler. Il tente de traduire le papier trouvé précédemment, composé de points et de chiffres. Demoiselle, aiguille creuse, Monsieur Bredou, le greffier, revient pour signaler que le procureur général attend dans sa voiture pour parler à Monsieur Filleul. Aussitôt, Bredou, le greffier, enferme Botrelet et s'engage entre Bredou et Botrelet une grande bataille. Comment cela va-t-il se finir? Eh bien, effectivement, Botrelet sera blessé et Bredou va s'en sortir, il va même partir. Je vous demande, chers amis, d'attendre le prochain épisode pour connaître la suite. Et nous verrons comment les choses vont se passer. En attendant, écoutez la brève de Je lis pour vous, le samedi à 7h45, et vous y apprendrez ce que signifient des expressions comme « battre sa coulpe » ou « faire florès ». À bientôt, chers auditeurs. Mais n'oubliez pas, écoutez Radio Alliance Plus.